Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Dans les débats publics autour du catholicisme ou de l'histoire de l'Église, reviennent toujours, telle une litanie, des affirmations à charge sur les croisades, les guerres de religion, l'antisémitisme ou encore l'Inquisition. L'Église, institution du passé, sinon obscurantiste et passéiste, est accusée d'avoir soutenu la violence, fait dresser des bûchers, de s'être opposée aussi à l'intelligence, d'avoir rejeté la raison et les progrès de la science. Storia Voce vous propose de relire l'histoire du catholicisme avec non pas les lunettes idéologiques du 19e siècle, mais avec un regard dépassionné sur les grandes polémiques. L'Église, au risque de l'histoire, tel est le titre de notre émission de ce jour. Olivier Anne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, agrégé, docteur en histoire médiévale, vous êtes chercheur associé à l'université d'Aix-en-Provence. Vous avez travaillé dans le cadre de votre thèse sur Lothaire de Cénis, personnage capital de l'histoire médiévale qui deviendra Innocent III, le pape du concile de Latran IV. Nous reviendrons sur le concile de Latran IV qui est extrêmement importante dans la création de la conscience individuelle. Nous sommes au XIIe et au XIIIe siècle. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes spécialiste de l'islam. Vous avez notamment écrit chez Bernard Giovannangeli, éditeur, une petite biographie de Mahomet et d'autres ouvrages sur la Syrie notamment. Et vous venez de publier « Le génie historique du catholicisme », un ouvrage paru aux éditions L'Homme Nouveau. Olivier Anne, ma première question, ma foi, sera assez simple. Pourquoi un tel ouvrage?
En fait, j'ai été enseignant dans le secondaire pendant de nombreuses années et j'étais toujours sidéré des remarques idiotes qui pouvaient être faites sur l'histoire religieuse de l'Occident. Et la plupart de ces remarques venaient généralement des élèves, mais aussi des enseignants. Or, j'avais suivi un parcours d'historien à l'université avec les règles de l'histoire critique, et ces règles auraient dû conduire mes collègues comme moi-même à avoir justement un regard dépassionné sur l'histoire religieuse de l'Europe. Or, je me suis rendu compte qu'il n'en était rien, et que dès lors qu'on abordait l'Église chrétienne, les premiers siècles, qu'on abordait la grande époque de la chrétienté au XIIIe siècle, eh bien, toutes les compétences techniques et entre guillemets scientifiques qu'on avait acquises à l'université, eh bien, s'effondraient pour justement, comme vous l'avez dit en introduction, un regard surtout idéologique. Et j'ai voulu, entre guillemets, corriger ça à mon niveau, en fonction des compétences en histoire médiévale qui étaient les miennes, d'apporter ce que moi j'avais vu dans les textes, à force de les regarder, à force de les fréquenter, par exemple sur l'Inquisition, par exemple sur le fait que l'Église n'avait absolument pas fait la promotion de l'intelligence, de la culture, de la raison, eh bien j'ai voulu relire tous ces mythes à l'aune de textes et de méthodes historiques qui sont pourtant les méthodes de l'université.
Alors ce travail est un long travail de maturation en quelque sorte, puisque je ne vais pas dire que c'est un point final, parce que un historien ne referme jamais ses dossiers, mais finalement c'est le travail d'années et d'années de recherche.
Voilà, c'est des centaines d'heures de lecture, c'est des centaines d'heures de cours aussi. Ça c'est très important, parce que le choix des thèmes est aussi lié aux cours que j'ai fait soit à l'université, soit en collège et lycée. C'est en fonction aussi des remarques des élèves et des étudiants. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à écrire là-dessus. Par exemple, sur les femmes, ça revenait en permanence. Mais monsieur, l'Église a opprimé les femmes. Bon, très bien, alors voyons, c'est quoi une femme? Que dit l'Église? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a pas fait? Les juifs, eh bien allez, on prend le sujet. Les musulmans, qu'est-ce que l'Église a fait avec les musulmans? Donc, vous voyez, j'utilise des techniques d'histoire et des techniques d'histoire médiévale, mais pour illustrer des sujets qui nous sont aussi intéressants, contemporains.
Comment réagissent aujourd'hui les élèves au-delà de leur ignorance? Est-ce que c'est de l'ignorance ou ce sont des ignares, c'est-à-dire des gens, l'ignorant ne sait pas, l'ignare ne sait pas et ne veut pas savoir?
Alors, je dirais que ce sont des ignorants qui ne savent pas qu'ils sont ignorants. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que lorsque l'élève se présente comme une feuille vierge, c'est magnifique parce qu'on peut faire un travail remarquable, rapide et approfondi. Alors que là, on a souvent affaire à des jeunes, même en université, qui sont convaincus de savoir. Et que, de toute façon, grâce à Internet, je peux avoir la réponse aux questions que je me pose. Du coup, ils sont peu, j'ai trouvé, alors ça n'est que mon expérience, ils sont peu en demande et ils sont peu en situation de feuille vierge. Je vous avoue aussi que j'ai eu exactement la même impression dans des séminaires ou dans des universités catholiques où j'ai pu enseigner. Et là, malheureusement, les clivages politiques se retrouvent. Dans certains séminaires plutôt à gauche, on avait absorbé effectivement toute la doxa, c'est-à-dire l'Église comme structure totalitaire. Et ça, j'étais quand même estomaqué en entendant des futurs prêtres dire « l'Église a été une structure totalitaire ». Donc j'ai envie de dire « pourquoi devenir prêtre d'une institution totalitaire ?» Donc là, premier type de discours. Deuxième type de discours dans des universités un peu plus à droite, où là, la vision critique n'était pas possible. Par exemple, lorsque j'évoquais les différents pouvoirs de la papauté, ce qu'a été la papauté avant le XIe siècle. La papauté avant le XIe siècle a une primauté honorifique sur les églises nationales, sur les évêques, mais n'a pas de priorité, de primauté disciplinaire. Et j'ai vu très souvent des étudiants refuser. Non, le pape a toujours été infaillible. J'ai dit, attendez, reprenons l'histoire. Qu'il n'ait jamais erré sur le plan dogmatique, c'est une chose, mais qu'il ait eu l'infaillibilité pontificale, c'est très récent. Alors, et tout le travail, c'est justement d'accepter la critique et de remettre en son temps et en son époque les bons mots à la bonne place.
Est-ce que plus je tire le filon vraiment de l'univers étudiant, parce que je trouve ça absolument capital pour nos auditeurs, est-ce que plus on remonte dans le temps, c'est-à-dire que plus vous faites face à des étudiants qui sont intéressés par l'histoire antique, par l'histoire médiévale, est-ce que ces étudiants ont un avis plus mesuré sur la chose, et au contraire, ceux qui s'intéressent davantage à l'histoire contemporaine ont un regard plus tranché, ou est-ce qu'il n'y a aucune différence dans les degrés d'approche de ces étudiants?
Vous avez raison, je trouve que votre comparaison est assez juste, au sens où histoire contemporaine, les jeunes étudiants connaissent ou croient connaître, donc je peux poser des idées personnelles beaucoup plus rapides. Dès qu'on aborde l'histoire médiévale, en fait, tous ces gens-là sont perdus immédiatement. Et j'ai le souvenir, jusqu'à l'année dernière, depuis 3 ans, on a eu un sujet d'histoire médiévale à l'agrégation qui était un sujet sur l'histoire du monde musulman entre le 10e siècle et le 15e siècle. Eh bien, on avait en face de nous des étudiants qui ne connaissaient rien. Et ne connaissant rien, parce que forcément, c'est pas leur formation initiale, le monde musulman 10e siècle, personne n'y connaît rien, on n'y comprend rien, les sources sont en arabe. Et du coup, c'était très agréable de faire ces cours-là, parce que justement, la feuille était vierge, et comme c'était un cours d'agrég, le niveau était quand même très bon. Donc là, vraiment, c'était très...
Donc là, il y a une ouverture d'esprit sur le fait religieux.
Sur le fait religieux, tout à fait. Et puis, comme c'était l'histoire médiévale musulmane, les gens sentaient qu'il y avait un enjeu majeur. Et aujourd'hui, depuis septembre, l'université a mis comme nouveau sujet d'agrég, ce qui est une bonne idée, le Moyen-Orient entre 1870 et 1980. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit la réactivité des étudiants qui sentent qu'il y a un enjeu majeur par rapport à aujourd'hui.
Mais il y a un enjeu majeur par rapport à l'islam, le fait catholique, puisque c'est le sujet de votre livre. Oui. Est-ce que le fait catholique, malgré tout, amène ses étudiants à mieux comprendre parce que ce sont des étudiants français que c'est que la France était avant considérée comme la fille aînée de l'Église et qu'elle a un substrat parce que montrait très bien le Goff même l'Europe hein, l'Europe est-elle née au Moyen Âge de le Goff, ouvrage absolument capital et qui montre que des personnages comme Grégoire le Grand, pape du VIe siècle, ont un rôle majeur dans la formation de notre monde.
Alors là, je vais être un petit peu déprimant, mais là encore, ça n'est que mon expérience. Dès lors que vous appuyez sur la touche catholicisme, les réactions sont épidermiques. Par exemple, j'avais participé comme enseignant à un cours sur le catholicisme au XIXe siècle, et au lieu de voir au XIXe siècle ce qui est fondamental dans le catholicisme, c'est-à-dire la recristianisation, l'implantation des églises dans n'importe quel village de France et de Navarre, la recherche intellectuelle, l'ouverture doctrinale sur le plan notamment de l'histoire critique. Bref, le XIXe siècle, c'est un gigantesque siècle catholique. Eh bien, en permanence, revenait l'affaire Mortara. L'affaire Mortara qui, sous Pie IX, était un enfant de famille juive qui avait été baptisé par la femme de ménage ou par sa bonne, et du coup qui aurait été arraché à sa famille parce qu'il était devenu chrétien, et donc il est hors de question qu'un jeune chrétien soit éduqué par des juifs. L'affaire Mortara était, alors que ça n'est qu'un détail, était devenu le critère de jugement du catholicisme au XIXe siècle.
Alors venons-en justement à toutes ces idées reçues. Votre livre, Le génie historique du catholicisme, cinq grandes parties, je me permets de les citer toutes. Donc la première partie est consacrée à la violence, la deuxième partie au lien entre la foi et la raison. Le refus des autres, troisième partie, la question politique, adhésion monarchique et compromission politique, donc les liens du spirituel et du temporel, et enfin l'Église contre les libertés individuelles, la question de la sexualité, la question de la femme et aussi l'affirmation de l'individu. Alors nous n'allons pas tout voir, je me permettrai d'abord de renvoyer nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Sébastien Morlet, qui a écrit cet ouvrage absolument magnifique qui s'appelle « Les chrétiens et la culture » et qui montre le lien entre la foi et la raison qui s'opère donc dans les premiers temps du christianisme et qui est absolument capital et qui montre le lien entre foi et raison, entre théologie et philosophie est absolument capital et on ne peut pas comprendre le christianisme et le catholicisme sans ce lien, et c'est ce qui fait toute sa grandeur intellectuelle. On ne peut pas écarter d'un revers de main saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, comme le fait d'ailleurs Michel Onfray de manière absolument désinvolte, ces grands penseurs qui ont fait l'intelligence chrétienne du début du siècle. Je vais directement à la violence, parce que la violence, c'est la première partie. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors que l'Occident est confronté à la violence de l'islamisme, on dit aisément ou facilement que le catholicisme lui-même a eu ces périodes violentes. Qu'en est-il exactement ? Alors, je sais que la question est vaste. Peut-être première question, quelle est la nouveauté d'abord de l'Évangile sur la question de la violence ?
Alors, je ne suis pas bibliste, hein, mais la nouveauté majeure de l'Évangile, c'est que la violence, en général, elle doit d'abord être une violence subie. C'est-à-dire que sur le plan institutionnel, sur le plan structurel, le peuple chrétien ne peut se faire l'artisan de la violence contre autrui. Il doit en être sa seule place au sein de la violence généralisée, c'est la position de témoin, de témoignage et de rayonnement du modèle du Christ. Ça, c'est au cœur finalement de l'Évangile, c'est au cœur des premiers siècles de l'Église, à tel point que une lecture au début, dans les premiers siècles, peut-être un peu littéral du modèle christique, a poussé la plupart des lettrés chrétiens à refuser non seulement la violence, mais aussi l'usage de la force, et même de la force étatique. Il est vrai aussi que jusqu'au IIIe siècle, l'Empire romain est un empire persécuteur, ou en tout cas très largement hostile. Donc les chrétiens avaient forcément une difficulté à valider l'usage de la force et de l'autorité. Mais finalement, dès le 3e et surtout le 4e siècle, l'Église va faire un énorme travail de définition. Définition et de distinction. Distinction entre la force, la légitimité de la force, la violence, la manière d'exercer la violence. À quel moment passe-t-on dans l'iniquité et est-on dans la justice? En fait, le grand travail de l'Église, c'est pas tellement pour définir ou pour mettre une rupture entre la force et la gentillesse, hein, pour dire les choses un peu de façon bébête, c'est qu'est-ce qui relève de la justice et qu'est-ce qui relève de l'iniquité. Et vous avez, je pense, une bonne réponse à l'esprit chrétien, à l'esprit catholique sur la question de la violence, mais sur les autres aussi, à partir du moment où vous prenez en compte la question de ce qu'on appelle le bien commun, qui ne sera formulé de façon telle quelle qu'au XIIe, XIIIe siècle, mais qui est déjà en germe avant même le VIe siècle, c'est le catholicisme doit se faire le défenseur du bien commun, et ce bien commun doit valider l'usage d'une certaine force, mais éviter la violence inique.
Alors, le rôle de Saint Augustin est évidemment majeur dans la définition de ce qu'on appelle la guerre juste.
Oui. Alors, le gros problème, évidemment, et on l'a souvent beaucoup dit, c'est que à partir de la fin du 3e et du début du 4e siècle, l'Empire se christianise, l'Empire se sacralise à la manière du catholicisme, et se sacralisant, il doit lui aussi évangéliser ses structures, évangéliser son système politique. Mais parce que Augustin sait que la fin des temps n'est pas pour tout de suite, et sait que la parousie, elle est là, et en même temps, elle adviendra plus tard, hein, les deux mouvements sont concomitants, Saint Augustin va prendre en charge l'acculturation. En fait, c'est peut-être ça le plus grand cadeau que nous a fait Saint Augustin, le plus grand cadeau à l'Europe, c'est l'acculturation. Acculturation de Rome au christianisme, acculturation du christianisme à Rome. Et cette acculturation, elle passe par beaucoup de lucidité. L'homme a une violence, les structures d'État ont une violence, elles sont inévitables face aux assauts barbares, face aux divisions internes, etc. Mais cette violence doit être canalisée. Et l'un des moyens de cette canalisation, c'est justement la guerre juste. La guerre juste, c'est il y a des situations d'autodéfense sociale, mais cette situation d'autodéfense sociale, qui va être gérée par l'État, c'est l'État qui va prendre en charge la défense de la société par des moyens violents. C'est donc une autodéfense sociale prise en main par l'État, qui doit se faire selon des moyens eux-mêmes justes. C'est-à-dire que la guerre juste, c'est pas simplement « tu m'as attaqué, j'ai le droit de t'attaquer », c'est aussi les moyens doivent être adaptés,
proportionnés,
oui. Et le but poursuivi doit lui aussi être proportionné au bien commun. Et donc, il y a une espèce de, j'ai envie de dire, d'obsession du juste milieu chez Augustin, en fonction du contexte qui lui est donné. Hein, c'est pas un rêveur. Ah bah oui, c'est pas un rêveur. C'est un spirituel, c'est un théologien. C'est pas un utopiste. Et l'utopie, éventuellement, c'est un évangile, mais un évangile enraciné. Pour l'enraciner, il faut l'enraciner dans un contexte. C'est ce qu'avait fait Jésus.
Alors, on va avancer dans la chronologie. Il y a un moment extrêmement important qui est peu connu et finalement qui est comparable à l'action pacifique, je dis bien pacifique et non pas pacifiste, d'un pape François ou bien d'un Jean-Paul II contre la guerre en Irak, c'est au Moyen-Âge ce qu'on a appelé la trêve de Dieu, oui. C'est-à-dire la volonté de donner un temps de répit.
Oui. Ça, c'est phénoménal. La trêve de Dieu, nous sommes au milieu du Xe siècle. La féodalité est en train de se mettre en place. Le monde carolingien s'est déjà effondré. Les monarchies féodales ne sont pas encore en place. Donc, on est dans une phase intermédiaire. Une phase intermédiaire qui autorise les châtelains, les châtelnies à se mettre en place et aussi à gérer les espaces à leur manière et avec leurs propres lois. Donc, on est au Xe siècle, on n'est plus dans l'Empire carolingien sécurisant, on n'est plus dans les monarchies féodales, comme celle de Philippe Auguste, qui elle aussi contrôle les principautés féodales. Donc on est dans un siècle instable. Or, dans ce siècle-là, au Xe siècle, les abbés et les évêques, notamment d'Aquitaine, se réunissent pour déclarer la trêve de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des temps où il faut arrêter la violence. Arrêter la violence privée. Arrêter les vengeances féodales. Et ces évêques qui se réunissent pendant toute une série de conciles définissent qu'entre le jeudi soir et le dimanche soir, pendant les temps liturgiques propices à faire mémoire de la passion du Christ, plus de violence vis-à-vis de ceux qu'on appelle les inermes, les gens désarmés. C'est devenu la veuve et l'orphelin, mais au début, c'était vraiment tous ceux qui n'ont pas d'armes. Et plus encore, tous ceux qui n'ont pas d'alliés, tous ceux qui n'ont pas de vassaux, tous ceux qui n'ont pas de suzerains.
De protection, finalement.
De protection politique. Et pour faire appliquer ce règlement, les prêtres, les évêques et les abbés réunis décident d'utiliser l'excommunication. Alors évidemment, les premiers temps, tout le monde rigole. Tout le monde rigole parce que vous êtes en plein règlement de compte interféodal et tout d'un coup, on vous dit « si tu interviens vendredi, tu seras excommunié ». Et on a toute une série de seigneurs ou de chevaliers qui continuent leur vendetta en plein vendredi. L'excommunication tombe et là, on a vu pendant tout le Xe siècle la puissance spirituelle des sanctions ecclésiastiques. Alors évidemment, les historiens laïcistes diront c'est de la superstition, les gens avaient peur. Mais plus que cela, c'est on voit revenir des dizaines et des dizaines de chevaliers qui étaient en pleine vengeance, qui étaient en plein abus des pauvres et des désarmés. On les voit revenir, on les voit abandonner la vendetta, on les voit promettre en pleine église de protéger effectivement la veuve et l'orphelin. Et en fait, on voit une société qui se convertit. Alors évidemment, qui ne se convertira jamais totalement à la paix, puisque on est dans des sociétés humaines, mais on voit une vengeance privée qui s'efface progressivement. Et l'Église, alors qu'on dit en permanence qu'elle réclame, qu'elle souhaite, qu'elle ambitionne le pouvoir politique, au moment, à la fin du Xe et surtout au XIe siècle, lorsque justement cette trêve de Dieu commence à être réellement efficace, les pouvoirs politiques, et notamment monarchiques, arrivent et récupèrent la trêve de Dieu, qu'ils vont laïciser, du moins qu'ils vont s'en occuper par eux-mêmes. Et du coup, l'Église, à ce moment-là, n'intervient plus, n'a plus besoin de mettre en place les sanctions ecclésiastiques, puisqu'il y a une autorité supérieure qui s'en charge sur le plan du pouvoir civil. Et donc, l'Église, loin de revendiquer, de maintenir toujours ses propres sanctions pour avoir le pouvoir sur ses féodaux, eh bien, au contraire, laisse les pouvoirs monarchiques prendre s'arroger la sécurisation des nations.
Et alors pourquoi, d'un côté, avoir cette trêve de Dieu, faire en sorte que la paix règne, et puis d'un autre côté, appeler à la violence à travers les croisades?
Alors en réalité, c'est le même phénomène. C'est ce qu'on appelle la paix de l'Église. Au XIe siècle, l'Église recherche la paix à l'intérieur de la société chrétienne. C'est pour ça qu'elle met en place la trêve de Dieu. C'est pour ça qu'elle met en place une christianisation des rituels chevaleresques, notamment à travers l'adoubement, la veillée de prière avant l'adoubement, la bénédiction des armes. Parce que le geste qui est attendu de la part de l'Église sur les armes, c'est le geste de Saint-Martin. L'épée doit permettre un geste de charité. Saint-Martin, quand il coupe le manteau en deux, c'est pas pour tailler en pièces le pauvre, c'est pour couper son manteau pour lui donner la moitié du manteau. Donc la guerre, entre guillemets, la violence doit être canalisée au profit de la charité. Et en fait, les croisades, même si nous, aujourd'hui, on a du mal à le comprendre, ont exactement le même but. En tout cas, les premières croisades. L'idée des premières croisades, c'est la pénitence. Il faut faire pénitence face à notre violence interne. Et l'Église détourne cette violence vers l'ennemi absolu à cette époque, qu'est le Sarrasin. Le Sarrasin qui, dès le Xe siècle, avait persécuté les chrétiens, puisque le califat abbasside est un califat qui veut promouvoir la conversion forcée des populations. Ce n'était pas tout à fait le cas des califats oumayyades d'avant les abbassides. Et surtout, les califes, et notamment le calife al-Hakim, au début du XIe siècle, avaient notamment détruit le Saint-Sépulcre. Tout au long du XIe siècle, les empereurs byzantins nous appellent au secours, puisqu'ils sont menacés directement sur leurs frontières. Et donc, il y a un sentiment de solidarité que va utiliser l'Église catholique, en disant, ben voilà, nos frères chrétiens sont menacés, eh bien nous allons canaliser votre violence à vous, les chevaliers, les féodaux, et cette violence va être transférée d'espace. Et donc on le transfère contre l'ennemi sarrasin. Alors évidemment, nous aussi, ça nous choque. Bah oui, mais ça n'est qu'un transfert d'espace. La violence qui était chez nous, on l'a envoyée chez eux. Oui, mais alors, quand on travaille un peu plus en détail les textes, on remarque que Urbain II, quand il appelle au Concile de Clermont en 1095 à lancer la croisade, il lance pas une croisade, c'est jamais exprimé comme ça. C'est une pénitence, c'est un pèlerinage de pénitence. Si bien que Urbain II n'avait absolument pas prévu d'éléments concrets et politiques de ce qu'on ferait une fois sur place. C'est-à-dire que la papauté lance un mouvement de pénitence et un mouvement de pèlerinage vers Jérusalem en disant « il faut aller sauver, aider les chrétiens et libérer le sépulcre du Seigneur », mais en réalité, on n'a pas prévu d'expédition. Mmh. Le ravitaillement n'est pas prévu, l'aspect militaire n'est pas du tout prévu, on ne sait pas ce qu'on va faire de Jérusalem si tant est qu'on puisse la récupérer, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une expédition, c'est un grand geste de purification spirituelle des chrétiens, partons tous vers Jérusalem. Et donc évidemment, dans un tel contexte spirituel, généreux, sympathique, mais totalement irréaliste, qui va prendre le leadership dans cette affaire? Eh bien, les barons. Les barons et les princes, eux, ont été pris, enthousiasmés aussi par ce mouvement, mais une fois sur place, eux, ils vont avoir une vision aussi très concrète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a battu les Sarrasins? Eh bien, on va spolier leurs terres, on va organiser des états, on va structurer, organiser des monarchies, etc. Ce qui n'était absolument pas prévu par l'Église à l'origine. Mmh. Donc on a un mouvement spirituel qui débouche sur un mouvement politique. L'Église initie le mouvement spirituel et les pouvoirs souverains construisent un mouvement politique. Mais d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'était passé pour la trêve de Dieu.
Alors, autre moment de violence, ce sont les guerres de religion. Quelle est finalement, j'allais dire, la part de responsabilité? Là, vous avez bien montré dans les croisades que la question politique est majeure dans la bascule en quelque sorte vers la violence et que c'est pas forcément l'Église qui en est responsable. Est-ce qu'on observe le même phénomène avec les guerres de religion?
Alors, dans les guerres de religion, il y a deux choses complètement différentes. Il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'abord la querelle dogmatique, la querelle théologique, hein, protestants, catholiques, réformés, etc. Là, il y a une vraie querelle théologique dans laquelle, effectivement, l'Église met tout son poids, son poids intellectuel, son poids philosophique. Face à celle-ci, ben, les réformés font de même dans les zones qu'ils dominent. Donc, on ne peut pas nier l'importance et la violence aussi des termes employés les uns vis-à-vis des autres. Mais le deuxième phénomène qui est majeur, c'est la transformation des monarchies à partir du XVe et du XVIe siècle. À partir de la fin du deuxième moitié du XVe siècle, les monarchies d'Occident se constituent en système dominant dans la plupart des institutions existantes. Les institutions existantes au Moyen-Âge, à part la monarchie, il y a évidemment l'Église, il y a les féodaux, quels qu'ils soient, les princes territoriaux, et éventuellement la bourgeoisie commerçante. On voit qu'avec la fin de la guerre de Cent Ans, notamment lorsque les bourgeois de Paris se révoltent contre la monarchie, au fur et à mesure de la guerre de Cent Ans, parvient à dominer les bourgeoisies urbaines. Les féodaux sont progressivement brisés, ils le seront encore jusqu'au XVIIe, mais globalement, la petite féodalité, à partir du fin XVe, elle rentre dans le rang. Donc il n'y a plus d'institutions locales ou nationales qui soient en capacité de faire face à la construction de ces monarchies qui deviennent des monarchies nationales, avec un sentiment national qui commence à se créer, et le phénomène est bien connu avec Jeanne d'Arc. Sauf que voilà, il y a une institution qui est transnationale, nationale et locale, c'est l'Église. Et celle-ci fait partie encore des institutions qui potentiellement pourraient résister. C'est la raison pour laquelle, dès le XVe siècle, on a toute une série de décisions d'assemblées de clergés nationaux qui décident de rompre les liens avec la papauté. Par exemple, avant même Henri VIII en Angleterre, n'oublions jamais que le roi Charles VII, pourtant aidé par Jeanne d'Arc, avait décidé la pragmatique sanction de Bourges en 1438, qui est une officialisation de l'indépendance disciplinaire et fiscale de l'Église de France, qui passe sous contrôle royal. Et donc, dès le XVe siècle, et le phénomène va s'amplifier au XVIe siècle, les monarchies se constituent en pouvoir, je dis pas omnipotent parce qu'ils n'en ont pas encore tous les moyens, mais en tout cas, il faut briser la puissance de l'Église en récupérant son autorité, notamment sur les nominations de clercs, d'évêques, etc. Et la guerre, les guerres de religion sont une espèce d'engerbage, d'enracinement de ces deux problématiques complètement différentes, une querelle théologique et un pouvoir grandissant de l'autorité monarchique qui voit dans les guerres de religion le moyen de renforcer son autorité et de laïciser les pouvoirs. L'Église doit être laïcisée, doit être sécularisée. Et qui étaient les sécularisateurs de l'Église? C'étaient les protestants. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, parce que ça donnera notamment toutes les églises américaines. Les églises américaines se définissent comme séculières, au sens où le pouvoir laïque doit les contrôler. C'est défini comme tel. Ce qui évidemment n'était pas du tout l'optique catholique.
Alors c'est très important ce que vous dites, parce qu'on a enregistré une émission avec Juliette Sidbon, qui travaille d'ailleurs avec à l'université d'Aix sur les Juifs au Moyen-Âge, et elle prend en compte ce processus de la création de l'État qui, alors que l'Église protégeait les Juifs, eh bien l'État, lui, s'est montré en quelque sorte, non pas omnipotent, mais a souhaité prendre la main sur cette population.
Prendre la main sur la protection des Juifs, parce que si c'est l'Église qui protège les Juifs, l'Église a une autorité sur une communauté, autorité et communauté qui échappent donc tous deux au pouvoir royal. Et comme par hasard, le grand moment des pogroms médiévaux, il y a deux grands moments. Il y a tout d'abord, au début du XIIe siècle, au moment de la croisade, dans cet enthousiasme pénitentiel, on a des dérapages de pèlerins, dérapages qui sont immédiatement condamnés par toute la hiérarchie ecclésiastique. Et deuxième phase de pogrom, c'est les pogroms des XIVe, XVe et XVe siècles, où là, l'Église n'a quasiment plus la main sur la protection de ses communautés, sauf dans le comté venaissin, où là, effectivement, la communauté est bien protégée. Et qu'est-ce qui se passe au XVe qui explique ces pogroms? Les petites principautés territoriales, les princes territoriaux qui parvenaient encore à résister au pouvoir monarchique, sentent un danger, un danger de perte de leur contrôle, de leur pouvoir, et cette situation va exaspérer les tensions au sein des communautés. Et je prends l'exemple notamment du Dauphiné. Le Dauphiné, tant que le Dauphiné est sous contrôle des dauphins qui étaient indépendants, il n'y a pas de pogrom. Il y avait beaucoup de communautés juives dans le Dauphiné. À partir du moment où le Dauphiné au XIVe et puis XVe siècle passe sous contrôle de la monarchie française, eh bien on se rend compte que on a des explosions anti-juives dans toute une série de villages, comme si l'arrivée d'un pouvoir monarchique supérieur brisait un équilibre. Et ce qui n'est pas inintéressant aussi, c'est que au moment là aussi où la monarchie polonaise se constitue comme une autorité monarchique très présente, 16e siècle, eh bien la Pologne, qui était un grand lieu de paix envers les communautés juives, eh bien le nombre de pogroms explose au 16e siècle. Il y a quelque chose de concomitant. Alors ça n'explique pas tout, mais en grande partie.
Alors autre fait qui est extrêmement important, qu'on reproche à l'Église, c'est bien évidemment l'Inquisition. Alors avant de peut-être devenir à l'Inquisition, j'ai découvert, je ne le savais pas en lisant votre ouvrage, le sens du mot dogme. Parce que c'est vrai que pour, j'allais dire, le personnage lambda, le dogme, c'est quasiment un gros mot.
Oui, oui.
On ne doit pas parler de dogme, il ne doit pas y avoir de dogme. Or, le dogme, c'est ni plus ni moins que l'opinion courante.
C'est l'opinion courante. Et d'ailleurs, dans la patristique grecque, le mot dogma est assez négatif. C'est l'opinion du vulgaire. C'est aussi l'opinion sectaire aussi parfois. Et le dogma va prendre de plus en plus d'importance dans la vision chrétienne catholique et va devenir effectivement cette opinion que le chrétien a et que l'Église valide. Mais l'Église, pendant tout le Moyen-Âge, préfère de loin le mot doctrina plutôt que le mot dogma. Parce que la doctrina, c'est l'enseignement. Le christianisme n'est pas d'abord un dogme, il est d'abord un enseignement, et un enseignement vivant. Il est l'enseignement vivant d'une personne vivante, le Christ, et il est l'enseignement vivant d'une institution vivante, l'Église.
C'est pour ça que le catholicisme est une religion du verbe et non pas une religion du livre.
Alors là, attention, je tiens à être très clair, nous ne sommes pas des religions du livre, nous ne sommes pas les Halel Kitab, c'est un concept coranique, Halel Kitab, qui désigne les populations autorisées à vivre en terre d'islam sous le régime de Dhimma. On est dans du coranique, on est dans l'islam du 7e, 8e siècle. Les chrétiens, je ne sais pas pourquoi, ont voulu absolument devenir des religions du livre depuis 50 ans. Ils sont des religions de la parole vivante, ils sont des religions du verbe incarné, et ça change tout. Ça change tout parce que quand vous êtes une religion du livre, ce qui fait la dignité de votre foi ou ce qui fait votre piété, c'est votre niveau d'étude, c'est jusqu'où vous êtes arrivé dans l'étude du texte, qu'il s'agisse du Talmud, de la Torah ou du Coran. Et les grands auteurs, les gens prestigieux sur le plan religieux en islam sont des gens d'étude du Coran. Dans le christianisme, les gens qui ont la sainteté, c'est pas ceux qui ont forcément la plus grande connaissance du texte biblique et de ses arcanes, ce sont d'abord ceux qui se sont le plus ajustés au Seigneur, qui sont ajustés à la parole vivante, et celui qui est ajusté, c'est celui qui est juste, et donc c'est celui qui est saint. Donc nous sommes des gens de la parole vivante.
Alors, est-ce que, pour être un peu provocateur, est-ce que les maîtres inquisiteurs se sont ajustés à la parole de Dieu ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Le principe... Alors, soyons... si on prend de la distance vis-à-vis des phénomènes, des sources, etc. Le principe de l'inquisition lui-même est donc le principe d'une surveillance, inquisitio, surveillance ou d'un contrôle ou d'une recherche de la faute, est un principe qui en soi n'est pas évangélique. Alors pourquoi est-ce qu'on peut sauver l'inquisition ? Faut-il brûler l'inquisition ? L'inquisition est le produit d'une société qui se construit avec le droit canon, avec la foi chrétienne comme base quotidienne et comme référent culturel. En fait, on est presque au-delà de la religion, c'est un référent culturel. Ce référent culturel fait notre unité. Or, à partir du XIIe siècle, on voit naître toute une série de groupes hérétiques, cathares, vaudois, etc., qui brisent le lien à ce référent culturel, qui brisent le lien à la foi, et, très important, qui brisent le lien à l'obéissance monarchique. C'est les trois à la fois. Or, puisqu'ils brisent les trois liens qui sont consubstantiels à la survivance de la société, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour tout le monde. Pour l'Église, pour les gens au quotidien et pour les pouvoirs politiques. Et donc tout le monde va aller à leur chasse. Mais tout le monde avec ses propres moyens. Le peuple va à la chasse à l'hérétique avec ses piques et ses bûchers. Le roi y va avec son autorité et sa force militaire et sa répression entre guillemets policière. Et l'Église y va avec ses modèles. Et ses modèles, c'est quoi? C'est la conversion et c'est le débat public. Et donc l'Inquisition, elle part là-dessus. L'idée de l'Inquisition à l'origine, c'est comment convaincre les hérétiques de rejoindre le giron de la doctrine.
Parce que finalement, un hérétique brûlé, c'était un échec de l'inquisiteur.
C'est un échec. L'Église rechigne impérativement au bûcher, puisque c'est un échec de la reconversion de la personne. Alors attention, il y en a eu, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais même si les chiffres doivent être remis à leur bonne place.
Vous citez d'ailleurs un inquisiteur qui visiblement était très très actif,
oui,
et brûlé beaucoup et qui va être condamné.
Qui est condamné
lui-même
par l'Église. Oui, voilà. Oui. Donc on a des figures d'inquisiteurs qui sont complètement mis de côté. Donc on fait très attention. L'inquisition est donc une procédure judiciaire. Dans les procédures judiciaires laïques, il n'y a pas de procès. Il n'y a qu'une instruction qui dure en général 1 ou 2 heures et la personne est condamnée quasiment l'après-midi. Donc il n'y a pas réellement de procès. En pouvoir civil. Il y a un procès qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, dans les procédures inquisitoriales. Prenons le cas notamment des Templiers qui ont subi un procès politique, on le sait bien, comme Jeanne d'Arc, procès politique. L'Inquisition, c'est pas l'Inquisition pontificale qui gère ces procès-là, c'est l'Inquisition locale, nationale, sous contrôle d'État. Donc ne confondons pas tout. Et dans le cas de Jeanne d'Arc, comme dans le cas des Templiers, le procès, tout le monde sait qu'il est truqué dès l'origine, mais comme on est quand même obligé de respecter les procédures, le procès des Templiers, c'est 7 ans. Alors qu'au moment où Guillaume de Nogaret lance le procès, on sait déjà qu'on les brûlera. Mais il a dû passer par des règles juridiques qui ont pris 7 ans. Jeanne d'Arc, elle a toute l'armée anglaise contre elle, elle a la moitié du royaume contre elle, ils mettent quasiment 8 mois à la condamner. Et encore à la fin, ils s'en sortent par un tour de passe-passe. Donc les procédures inquisitoriales sont d'une lourdeur extrême. Je ne mets pas de côté le fait que le principe lui-même, effectivement, n'est pas évangélique. On est d'accord. Mais l'Inquisition est une institution, j'exagère un peu, mais qui est protectrice. Il ne faut pas confondre toutes les inquisitions. Il y a l'inquisition pontificale qui est autonome, qui se prononce en dehors de tout cadre, de toute influence des pouvoirs politiques. Il y a l'inquisition de chaque nation a son grand inquisiteur, qui obéit plus au roi qu'au pape. Donc vous voyez, en fait c'est une structure très complexe et qui évolue. L'inquisition, par exemple, espagnole, ne commence réellement à déraper par rapport aux règles qu'au XVIe siècle, et pas avant. Il faut recontextualiser à chaque fois.
Alors cette recontextualisation est extrêmement importante, et finalement, c'est le fil rouge de votre ouvrage, et c'est le rôle de l'historien que de se replacer dans le contexte.
C'est notre seule fonction, parce que le gros problème, c'est que le jugement... Il faut juger. Puis on est obligé de juger. On est né pour ça. Notre culture européenne est chrétienne, mais européenne d'abord. Elle est une culture de l'analyse. Nous pesons les choses, nous les analysons, nous les comparons, nous les décortiquons. Et c'est ça notre ADN. Et il ne faut pas rejeter cet ADN. Donc, que nous posions des jugements... Pourquoi pas? Mais nous pouvons poser le jugement uniquement après avoir fait tout le travail, qui est un travail purement, mais qui est authentiquement européen, qui est authentiquement chrétien et catholique, c'est-à-dire l'analyse. Nous sommes des analystes, ça fait partie de notre structure. On est aristotélicien, nous sommes thomistes, nous sommes cicéroniens. L'amour du langage, l'amour d'une phrase bien faite, l'amour d'une belle démonstration, au bout de laquelle on a posé un jugement. Mais ce jugement ne peut être posé qu'après l'ensemble de ce processus. Eh bien, oui, disons que nous ne sommes pas comme les médiévaux, peu importe, mais faisons d'abord le travail intermédiaire. Et ça a été, un peu modestement, ce que j'ai voulu faire, c'est de retracer ce travail de processus intermédiaire de l'analyse.
Eh bien, merci beaucoup, merci Olivier vous. Anne, pour ce travail. Donc, le génie historique du catholicisme dans la collection L'Église face aux controverses, aux éditions L'Homme Nouveau, que vous pouvez acquérir pour la somme de 23,50 €. Je vous remercie. Je renvoie aussi nos auditeurs à votre excellent Innocent 3, paru chez Belin, et à vos divers ouvrages chez un éditeur que je connais bien, Bernard Giovannangeli, donc votre Mahomet, votre Jeanne d'Arc et votre Charlemagne. Je remercie également Georges, qui est toujours fidèle à la technique. Merci à lui et vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.